J'ai lu une très belle prière de Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, moins connu qu'Ignace de Loyola, alors qu'il est tout aussi important dans l'histoire de l'Église, il est considéré comme le premier théologien du martyr. Il a été le deuxième évêque d'Antioche après Saint Pierre, arrêté comme chrétien, condamné à mort, envoyé à Rome pour y être livré aux bêtes, subir le martyr. Qu'il a subi, on ne connaît pas la date exacte, c'est au début du deuxième siècle, entre 107 et 117. Et pendant le voyage, tout au long du voyage, il écrit une série de lettres à toutes les églises qu'il traverse. Des lettres que nous avons conservées, des lettres magnifiques, pleines de douceur, d'émotion, de vigueur. Il écrit notamment ceci: « La foi et la charité sont le commencement et la fin de la vie. » Le commencement, c'est la foi, et la fin, c'est la charité. Et les deux réunis, c'est Dieu, et tout le reste s'ensuit qui conduit à la perfection. Dans une autre de ses lettres, il fait donc cette prière: demandez pour moi la force intérieure et extérieure, afin que je n'aie pas seulement la parole, mais la volonté, afin que je n'ai pas seulement la réputation d'être chrétien, mais la réalité. Si j'en ai la réalité, alors je pourrai en avoir la réputation et être un vrai croyant. Quand je ne serai plus visible pour le monde, rien de ce qui se fait voir n'est bon. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste davantage maintenant qu'il est retourné au Père. Et quand le christianisme est haï par le monde, on voit bien qu'il n'est pas une œuvre de persuasion humaine, mais de puissance divine. Rien de ce qui se fait voir n'est bon. On pourrait dire plutôt, rien de ce qui cherche à se faire voir n'est bon. Nous avions à la messe cette semaine, à la messe de mercredi, l'évangile du mercredi des cendres. Toi, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, que cela reste dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Ce qui n'est jamais que l'accomplissement de la parole qui ouvre le sermon sur la montagne. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. La gloire du Père, pas la gloire qui vient des hommes. Lorsque Jésus prévient ses apôtres que rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu, il ne s'agit pas des turpitudes des hommes, mais bien des merveilles de Dieu, de ce qui fait la gloire de Dieu. Et je vous propose de rapporter la suite, ce que je vous dis dans les ténèbres, aux paroles prononcées par le Christ sur la croix, quand les ténèbres se sont abattues sur la terre, quand l'obscurité a couvert le monde. Paroles de totale confiance en son Père, de parfaite remise de sa vie entre ses mains. C'est la confiance à laquelle nous sommes appelés chaque jour, jour après jour, et particulièrement dans les temps de crise et d'épreuve. Ce que nous vivons cette année, ce que nous avons déjà vécu, et probablement au regard des épreuves à venir, au vu des nuages qui s'amoncellent sur le monde, de l'orage qui gronde. Ne craignez pas, dit Jésus. Et pour cela, pour trouver cette confiance, je voudrais m'inspirer de l'homélie que le pape François a donné à Pentecôte, bien sûr sur l'Esprit Saint, sur le don de Dieu, sur la réalité même de Dieu qui donne et qui ne cesse de donner en abondance et en surabondance. Il donne son amour, il nous donne la liberté, il nous donne la vie et la vie éternelle. Et le pape François nous invitait à voir chacun où nous en sommes, à faire une sorte d'examen de conscience, à nous regarder du dedans, comme il disait, pour nous demander: qu'est-ce qui nous empêche, nous, de donner? Voilà une bonne question. Peut-être qu'on estime qu'on en fait assez, qu'on donne assez, et peut-être qu'on peut se demander qu'est-ce qui nous empêche de donner? Et il disait qu'il y a trois obstacles principaux, trois ennemis du don, ces ennemis qui sont tapis à la porte de notre cœur, comme dit l'Écriture. Le narcissisme, le pessimisme, et le fait de se poser faussement en victime. Le narcissisme, on peut l'appeler aussi le nombrilisme, c'est quelque chose qui a toujours existé. cette complaisance et cet enfermement dans les intérêts propres. La vie est belle si j'y gagne. Et pourquoi donc devrais-je donner aux autres ? Ce qui compte, c'est moi. Cette propension, probablement naturelle à se replier sur soi, pour certains, a été accentuée par le confinement, le repli. Et pour d'autres, au contraire, ça a été l'occasion de découvrir la joie de donner. Le pessimisme est aussi ancien, qui d'ailleurs peut résulter du premier, il y a un lien de l'un à l'autre. Le nombrilisme rend forcément pessimiste quand on n'a pas beaucoup d'autres raisons que soi-même. Évidemment, il y a de quoi être inquiet. Et inversement, le pessimisme rend égoïste, on cherche simplement à sauver sa peau. C'est pas tant pour le pessimiste que rien ne va, on entend rien ne va, ni la société, la politique, l'église, rien ne le satisfait. C'est ça le pessimiste. Il s'en prend au monde tout en restant inerte, en disant ça a quoi de donner, ça a quoi de s'engager. Et puis il y a la troisième tentation qui est plus nouvelle dans son ampleur, qu'on appelle aujourd'hui la tentation victimaire, la victimisation, le fait de se poser en victime alors qu'il n'y a pas eu d'agression ni d'agresseur. Le terme victimaire dit cela, une souffrance sans qu'il y ait de faits avérés. C'est d'abord un manque de respect pour les vraies victimes. Et puis c'est un enfermement parce que celui qui se croit injustement défavorisé a tendance à s'enfermer dedans, en se plaignant sans cesse. « Ah, personne ne me comprend, personne ne m'aime, on m'en veut. » Si le pape avait été italien, il aurait parlé de Calimero. Vous connaissez Calimero ? C'est un petit personnage italien. Il a le nom d'ailleurs d'une basilique de Milan, une super basilique, San Calimero, du nom du deuxième évêque de Milan. Petit poussin noir, coiffé d'une demi-coquille. Mais alors, il était noir parce qu'il a été créé dans les années 60 pour une marque de lessive. En fait, il était sale, il était lavé et nettoyé à la fin. Et vous connaissez son refrain de Calimero, il dit « c'est trop injuste ». C'est ça la tentation victimaire. Une tentation qui prend une ampleur nouvelle aujourd'hui, au fur et à mesure que se diluent les responsabilités de chacun, avec toutes sortes de facteurs qui contribuent à l'augmenter, certainement beaucoup d'immaturité, d'infantilisation, les phénomènes de reconnaissance médiatique, un accent porté à tout ce qui peut être indemnisation, voire assistanat. Chacune de ces tentations est une idolâtrie, dit le pape. Le dieu miroir, le dieu négativité, le dieu lamentation. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous retrouvons... Comme en manque d'espérance, nous avons besoin de retrouver la joie de vivre, le goût de la vie, le sens même du don, le fait de donner. Savoir que nous sommes chacun d'entre nous un don de Dieu. Chacun d'entre nous est un don de Dieu. Mais ce sont davantage des manques que des péchés contre l'espérance. Le péché contre l'espérance, c'est le pessimisme. Le péché contre la charité, c'est le nombrilisme. Et voyez par déduction pourquoi la troisième tentation, la tentation victimaire, prend une ampleur nouvelle aujourd'hui. C'est un péché contre la foi. Un péché contre la foi, le refus des responsabilités. Le refus de croire, de penser, d'accepter que nous aurons tous à répondre devant Dieu de ce que nous aurons fait, de ce que nous avons reçu. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Jésus est la vraie victime. La victime offerte pour nos péchés. Celui qui donne sa vie par amour. Celui qui accepte la mission du Père et la complexité du monde. Il faut tenir les deux. La mission du Père et la complexité du monde. Ce chemin du salut par son acceptation et son sacrifice. Modèle du don de soi et de l'engagement. Deux termes fondamentaux. L'acceptation, l'engagement. Alors vous pouvez reprendre l'une ou l'autre de ces tentations du nombrilisme, du pessimisme ou de la propension à se victimiser. Mais ne passez pas trop de temps dessus, reprenons sans cesse le message du Christ sur la volonté du Père. Mmh. Le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Je fais la volonté du Père, dit Jésus. Et le Père lui a rendu témoignage en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. »